Avant que nous prions ensemble, j'aimerais lire une parole de Dieu tirée de Romains 5. Ouvrons la Bible pour ceux qui en ont une. Lisons Romains 5 avant de prier. C'est ici que Paul, ce grand homme de Dieu en son temps, prononce ces précieuses paroles et qu'il dit, Romains 5, verset 1, « Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et que cela n'est pas quelque chose de merveilleux d'avoir la paix avec Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, certainement pas. Mais seuls ceux qui, comme cela a été exprimé ici, ont eu la foi, qui ont reçu l'assurance de sa part, qui ont vraiment reçu Christ dans leur vie, ceux-là ont la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Et il poursuivit au verset 2. Par lequel nous avons aussi obtenu par la foi l'accès à notre état de grâce actuel. Et nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cela aussi, bien-aimé, est quelque chose de merveilleux pour nous. Nous aussi, nous pouvons nous glorifier de la gloire de Dieu. Et nous sommes si heureux de savoir que non seulement cela autrefois ont pu se glorifier, mais que nous aussi nous pouvons nous en glorifier. Oui, c'est quelque chose de précieux. Bien-aimés, si nous sommes en accord avec Dieu, un avec Dieu, conforme à lui, alors nous sommes aussi conformes à sa parole. C'est bien cela. Disons encore un peu plus loin le troisième verset. Bien plus, nous nous en glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Mais l'espérance ne conduit pas à la déception parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, quelle parole précieuse! Je ne sais pas, mais je crois que cela nous donne tout de même la joie et le courage d'offrir à notre Seigneur l'honneur et la reconnaissance. Et cela produit tout de même quelque chose dans notre cœur lorsque nous lisons ces paroles, que nous pouvons remercier notre Seigneur et l'adorer. Frères et sœurs, lisons encore ces quelques versets qui restent. En effet, lorsque nous étions encore faibles, le verset 6, selon l'état des choses, ou bien alors encore dans le péché, le Christ est mort pour nous, pour des impies. Alors que nous étions encore loin de lui, il est mort pour nous, il est mort pour nous, il a déjà payé le prix. Et nous voyons ainsi quel amour il avait pour nous. Nous pouvons aussi témoigner de cela, car verset 7, car il est peu probable que quelqu'un d'autre souffre la mort pour un juste. Mais pour un homme de bien, peut-être quelqu'un se décidera-t-il même à donner sa vie. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela s'est accompli pour nous, a eu lieu pour nous, oui, comme c'est merveilleux. Verset 9, « Ainsi donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons encore plus certainement sauvés par lui de la colère de Dieu. » Oh, cela devrait, s'il n'y a rien eu de si utile pour nous, mais cela devrait nous aider, qui nous sauvera de la colère. Il nous a sauvés de nos péchés. Et il nous sauvera de la colère. Il veut nous sauver de la colère. La colère s'abattra un jour sur tout être humain impie, sur tous les pécheurs. Elle viendra, oui, mais les siens seront enlevés avant. C'est merveilleux. Verset 10. Car si bien qu'étant encore ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son fils, maintenant, réconciliés nous trouverons encore plus sûrement le salut par sa vie. Là, nous pouvons que dire amen à cela, oui. Mais plus encore, nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Avons-nous reçu la réconciliation? Amen. Louange et action de grâce au Seigneur. Offrons-lui la gloire et l'adoration. Levons-nous pour cela. Père Céleste, du fond de nos cœurs, nous te remercions aussi pour cette heure matinale. Nous te remercions pour ta précieuse parole, Seigneur, Dieu fidèle. Ce n'est pas seulement un Paul. Ce n'est pas seulement Paul qui a pu ressentir cela, mais nous l'avons aussi expérimenté. Oh Seigneur, nous avons trouvé la paix avec toi et en toi. Le monde ne peut pas trouver la paix, mais tu nous as donné cette paix. La paix, Seigneur, qui est la paix qui est profondément ancrée dans nos cœurs. Quoi qu'il arrive, Seigneur, dans notre vie, nous savons que tu nous as donné ta paix, ta joie, tout cela par grâce. Et nous pouvons nous réjouir même dans les tribulations, Seigneur, qui s'abattront. Nous pouvons être pleinement en accord avec tous ceux qui nous ont précédés. Seigneur, comme nous l'avons entendu hier soir, ils ont tout supporté, Seigneur. Oh mon Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous aussi, que vienne ce qu'il voudra. Seigneur, mais nous voulons rester unis à toi, liés avec toi. Seigneur, gloire à ton nom glorieux. Seigneur, je te prie, des profondeurs du plus profond de mon cœur, de bénir ton peuple ce matin. Bénis nous tous, Seigneur. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont malades. Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur. Nous te le demandons. Bénis aussi mon frère maintenant, Seigneur. Quand il ouvrira ta bouche, fortifie-le, Seigneur, dans son esprit, dans son âme et son corps, Seigneur. Je te le demande. Au nom saint de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous nous asseyons. Louange et remerciement au Seigneur. Comme nous sommes reconnaissants que Dieu ordonne toutes choses, classe toutes choses, elles ne pourraient pas être mieux classées qu'elles le sont par Dieu lui-même. Et ce que Dieu fait est toujours parfaitement accompli. Nous avons déjà lu deux paroles magnifiques. La première est tirée de Romains 5. Qui peut ajouter la moindre chose ici ou là? Chaque phrase est si puissante. Chaque phrase est l'évangile de Jésus-Christ. Chaque phrase est un message divin. Et ce qui y est exprimé est tout simplement glorieux au-delà de toute chose, de toute mesure. Partout, il y a de l'enseignement, partout, il y a de la consolation, partout, il y a quelque chose pour chacun, peu importe où nous ouvrons les Écritures, les Saintes Écritures. Notamment, la partie qui explique que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à hériter de la béatitude, à hériter de la béatitude. Si nous lisons 1 Thessaloniciens 5 pour toujours, pour cela, il est écrit là, et il nous sauvera de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Les jugements de colère sont destinés à ceux qui ont manqué le temps de la grâce, qui n'ont pas accepté la grâce, qui n'ont pas accepté la réconciliation, qui n'ont pas fait l'expérience avec Dieu, qui n'ont pas expérimenté Dieu. Pour eux, la colère viendra. Mais pour nous, la grâce est venue. Je l'ai sans doute dit ici mercredi soir. Les Saintes Écritures en témoignent. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et celui qui le possède, celui qui l'a, a la grâce et la vérité, celui qui l'a, a le pardon, a le salut, a la réconciliation, a la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu, a Dieu, le Dieu personnel. Vous savez qu'il y a des gens qui croient en un Dieu qui est quelque part. Ils ne savent pas où il est parce que le monde tournent aussi, ils ne savent plus où est le haut et le bas. Il y a en effet beaucoup de problèmes avec les sages de ce monde. Nous tournons nos regards vers le haut, d'où nous vient le secours. Comme nous sommes reconnaissants de pouvoir être assez naïfs, oui, pour croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et non seulement pour croire, mais aussi pour croire qu'elle trouve son accomplissement dans notre vie. Quand Frère Rousse a dit, on ne peut plus rien ajouter à cela, je me suis dit, je n'ai pas besoin de ça, on ne peut que l'expérimenter personnellement. En tant que peuple de Dieu, nous aspirons à vivre, à expérimenter ce que nous lisons. Lorsque le frère Gaillet a parlé de l'agitation, la parole de l'épître aux Hébreux m'est venue. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Celui qui a cessé de faire ses propres œuvres ou qui a cessé de faire ses propres œuvres, qui s'est reposé ses propres œuvres, est entré dans le repos de Dieu, dans le repos en Dieu. Et nous pouvons en effet trouver le repos en Dieu et venir dans le repos en Dieu. J'ai deux ou trois pensées sur le cœur que je voudrais partager avec vous. Le fondement en a déjà été posé dans la parole de 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, à savoir dans le témoignage ici, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen est prononcé par lui, à la gloire de Dieu par nous. Sans nous, cela ne va pas. Par nous. Quoi que Dieu ait promis à l'Église, cela doit se faire et se fera dans l'Église. Tout ce qu'il a promis au peuple d'Israël se fera avec et par Israël. S'accomplira par Israël et en Israël. Et ce qu'il a promis à l'Église s'accomplira dans l'Église. Et tout ce qu'il a promis à l'épouse s'accomplira dans l'épouse. Et pour toutes les promesses de Dieu, quel que soit le domaine ou la personne qu'elle concerne, le oui se trouve en Jésus-Christ notre Seigneur. Et en lui, l'amen a déjà été donné. Je vous le lis. Il est l'amen. Apocalypse, chapitre 3, vous savez, à l'époque où nous vivons, il s'agit principalement de la révélation, et il m'est venu à l'esprit, donc il s'agit principalement de l'Apocalypse, il a voulu dire, de l'Apocalypse, et il m'est venu à l'esprit qu'en effet, nous avons été introduits dans le Saint, dans le lieu très saint. Nous ne devinons plus ce qui se trouve derrière le rideau. Nous voyons que le rideau s'est déchiré, que le chemin est libre et que nous avons un libre accès, et ce, au trône de grâce de Dieu. Et nous avons trouvé la grâce au temps convenable, autant opportun, comme il est également écrit dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, verset 16. Nous ne sommes pas restés dans le parvis, ni même dans le sanctuaire. Nous avons en effet été placés sur le sol même du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous savons une chose, c'est qu'aucun homme n'y a parlé, pas même un souverain sacrificateur qui entrait une fois par an dans le lieu très saint. Il n'avait qu'une seule tâche, c'était d'offrir le sang pour lui-même et pour le peuple. Il n'avait rien d'autre à faire. Dieu donnait la réponse. Il est entré dans le sanctuaire avec la réponse et l'a transmise à ceux qui attendaient la réponse divine. Je crois que nous pouvons dire en toute certitude. Donc il est ressorti du lieu très saint dans le sanctuaire pour donner la réponse à ceux qui l'attendaient. Je crois que nous pouvons dire en toute certitude que Dieu nous a parlé directement ces jours-ci par révélation dans le lieu très saint. Nous n'avons pas entendu la parole des hommes, mais celle de Dieu, la parole de Dieu. Nous n'avons pas entendu des explications, mais les paroles de la révélation. Je voudrais lire cette parole ici. Lire cette parole ici. Et puis exposer très brièvement ce que j'ai à dire en rapport avec l'Apocalypse, avec l'aide de Dieu. Je voudrais maintenant lire Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle celui qui est l'Amen. Le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. Nous connaissons tous ce texte. Je voudrais dire brièvement ceci. Puisque nous vivons à une époque où l'on ne proclame pas seulement la révélation divine, mais aussi où il y a des spéculations humaines qui circulent, j'aimerais pouvoir dire, sur la base de la parole du Seigneur, comment nous pouvons distinguer cela en tant que simples humains. Beaucoup souhaitent en effet avoir le don du discernement. Je vous donne aujourd'hui la clé avec l'aide de Dieu entre vos mains pour savoir où et comment distinguer et quel est le critère qui permet de distinguer ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se passe. À savoir, toujours par la parole de Dieu. Un don de discernement qui passe à côté de la parole n'est pas un don spirituel, un don de l'esprit. Tout don de l'esprit sera toujours en accord avec la parole elle-même. La pensée suivante me touche, m'émeut justement au regard du fait que ces derniers temps, ces annonces avec le septième sceau et les sept tonnerres suivent leur cours et il n'y a rien sur terre qui ne soit pas annoncé, qui ne trouve pas d'auditeurs et de personnes qui s'arrêtent simplement pour écouter ces choses. Et ils sont déjà impliqués dans des choses dont ils se sortent très mal. Je voudrais quand même dire deux ou trois choses sur la base de la parole de Dieu. Par exemple, si quelqu'un veut savoir ce que Dieu a voulu dire au premier âge de l'Église, il doit lire le texte disponible dans les Saintes Écritures du début à la fin. Il ne peut pas se contenter de lire le premier verset de cet âge et de laisser libre cours à son imagination et ses fantaisies. Il doit lire le texte en entier du début à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Cela concerne aussi bien le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième âge de l'Église. Quand il est écrit, et à l'ange de l'Église d'Éphèse écrit, et à l'ange de l'Église de Thyatire écrit, à l'ange de l'Église de Smyrne écrit, à l'ange de l'Église de Pergame écrit, alors vient tout le texte, suit tout le texte. Et comme je viens de le dire, si nous voulons savoir ce qui a été dit à l'époque de l'Église en question, à l'âge de l'Église en question, et quel message lui a été adressé, nous devons lire tout le texte qui s'y rapporte. Pouvez-vous dire amen à cela? Nous allons faire maintenant un pas de plus. Si nous voulons savoir ce qui se trouve dans le premier sceau, combien de versets devons-nous lire? mais au moins les versets qui traitent du premier sceau. On ne peut pas se contenter de lire le verset d'introduction et de laisser ensuite libre cours à son imagination, à sa fantaisie. Il faut continuer à lire pour découvrir tout ce qui en fait partie. Les quatre premiers sceaux, très clairs pour nous tous, les quatre étapes de développement de l'Antichrist, comment il a fait ses débuts, puis les trois étapes précédentes qui se rejoignent ensuite en une seule dans la quatrième et dernière époque. C'est très clair, personne n'a besoin de poser des questions à ce sujet, ni de donner de l'enseignement là-dessus. Nous avons brièvement évoqué le cinquième sceau. Celui qui veut savoir ce qu'il y a dans le cinquième sceau doit lire l'Apocalypse au chapitre 6, des versets 9 à 11. Il ne peut pas faire autrement. Il est impossible de lire seulement. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des holocaustes les âmes de ceux qui avaient été massacrés. On ne peut s'arrêter nulle part. Il faut lire jusqu'à la fin pour savoir ce qui appartient au cinquième sceau. Il en va de même avec Apocalypse 6, de 12 à 17. Si nous voulons savoir ce qui est contenu dans le sixième sceau, nous devons lire le même, de A à Z, pour être en fait informé par Dieu de ce dont il s'agit spécifiquement dans ce sceau ici. Je me demande sérieusement, pourquoi cela n'a pas été fait en ce qui concerne le septième sceau? Pourquoi? Et j'ai en effet, je l'ai déjà écrit dans la lettre séculaire, elle est sur ma table. Je n'ai pas d'explication pour le fait que des gens, d'abord des hommes qui sont devant, qui se tiennent devant la chair, ne lisent du septième sceau qu'un seul verset, comme si rien d'autre n'était écrit sur ce sceau. Puis, ils laissent aller leurs imaginations, leurs fantaisies, et en vérité dans toutes les directions. Je vous le demande maintenant, et vous pouvez aussi le demander à tous ceux qui veulent vous dire autre chose. Je me répète volontiers. Si je veux savoir ce qui appartient au premier sceau, ou au quatrième, au sixième, je dois lire le texte qui le décrit pour savoir de quoi il s'agit. Si je veux savoir ce qui se passe dans le sixième sceau, je dois continuer à le lire. Il n'est pas permis de s'en tenir au premier verset. Je le lis. Au sixième sceau. Si je veux savoir ce qui se passe pour le septième sceau, dans le sixième sceau, je dois continuer à lire. Donc, Apocalypse 8, verset 1, il lit maintenant. Apocalypse 8, verset 1, le septième sceau, pas le sixième, le septième sceau. Puis lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure environ. C'est là que l'imagination et les fantaisies entrent en jeu. Combien de calculs ont déjà été effectués sur la demi-heure? Combien de moments différents ont été fixés pour savoir quand elle a commencé et quand elle doit s'arrêter? Jusqu'à aujourd'hui, les unes étaient plus stupides que les autres. Dieu ne permet pas ce genre de choses. Dieu a dit clairement tout ce qu'il a dit. Et il a dit clairement, seuls les hommes apportent de la confusion dans la parole claire de Dieu. Regardez, je vais continuer à lire et nous aurons tout de suite un aperçu. Le verset 2. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Alors un autre ange vint et s'approcha de l'autel, tenant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il l'apporta pour les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums s'éleva pour les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Qui sont ici les saints? C'est la première question que nous devons immédiatement nous poser. Je ne suis pas préparé, mais je vais probablement pouvoir l'ouvrir à savoir du prophète Daniel pour vous montrer qu'à ce moment-là, c'est le peuple d'Israël qui passera par la dernière tribulation et qu'ils seront maltraités comme les saints du Très-Haut à ce moment-là. Je lis Daniel chapitre 7, Daniel 7, verset 26 et 27. Daniel 7, verset 26. Mais alors le tribunal tiendra séance et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'anéantir définitivement. Alors la royauté, la domination et le pouvoir sur tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront assujettis. Il y a probablement une autre parole, mais je lis d'abord dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, où il a aussi parlé des saints. Il est écrit concernant les saints qui en ce temps, en ce moment-là, à savoir pendant 3 ans et demi ou 42 mois dans Apocalypse 13, verset 7, ils devront passer par la grande tribulation. Il est question dans Apocalypse 13, verset 7, de l'Antichrist. Il lui fut aussi permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce qui m'importe dans ce contexte, c'est tout simplement ceci. Nous devons prendre les choses au sérieux et reconnaître la limite et faire la distinction des choses. Dieu reste toujours dans les limites de sa parole. Il est impossible qu'il aille au-delà de sa parole. Je pourrais entrer ici dans les détails, mais nous y reviendrons peut-être à la fin de l'année à en parler. Nos prières sont portées en présence de Dieu par le médiateur, par l'intercesseur, en raison du sang. En raison du sang. Nous voyons ici les saints d'Israël. Là, on prend des symboles de l'Ancien Testament. Là, des symboles de l'Ancien Testament sont pris. Il y avait l'autel des parfums en or, comme je viens de le dire. Je vais vous montrer d'après l'Ancien Testament et aussi ici, d'après l'Apocalypse, où ces choses ont leur contexte et appartiennent. Alors, lorsque l'agneau ouvrira le septième sceau, l'achèvement sera imminent. C'est alors que les dernières prières de ceux qui doivent traverser la tribulation, en particulier les saints d'Israël, sont apportées devant le trône de Dieu, étalées dans les encensoirs devant Dieu. C'est un moment bouleversant. Tout ce qui est dans le ciel retient son souffle. Personne n'ose dire quoi que ce soit. L'épouse est déjà achevée à ce moment-là. Et maintenant, le nombre complet des Juifs s'y ajoute et la fin de toute l'époque est là. Et il est dit ici, dans Apocalypse 8, verset 1, Apocalypse 8, verset 1, « Puis lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure environ. » Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Je ne peux parfois pas m'empêcher de demander et de dire dans la lettre circulaire, Jean a vu ceci et cela. L'énumère ici conformément aux Saintes Écritures. Et je suis allé même jusqu'à écrire que si quelqu'un voit autre chose que ce que Jean a vu en relation avec l'ouverture et l'accomplissement du septième sceau, mais il voit mal. Il voit mal. Il ne voit pas ce que Dieu a montré. Il voit sa propre fantaisie. Je veux voir ce que Dieu a montré à Jean, ce qu'il lui a révélé. Et comme nous l'avons dit clairement, celui qui veut savoir ce qui appartient au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième sceau, doit lire le texte qui s'y rapporte. Celui qui veut savoir ce qui appartient au septième sceau doit lire le texte qui s'y rapporte. Amen. Il n'y a pas d'autre don de discernement. Il n'y a pas d'autre preuve que la preuve de la sainte parole de Dieu elle-même. Il n'y a pas d'autre exposé de preuve que l'exposé de la preuve donnée par la Sainte Écriture. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons en effet été amenés dans le lieu très saint lui-même. Nous devions tous enlever, ôter nos souliers, nos chaussures, car nous savions que nous foulions une terre sainte, un sol saint. Nous étions conscients que ce ne sont pas les hommes qui disent ce qu'ils ont à dire devant Dieu dans le lieu très saint, mais que nous devons nous taire et que c'est Dieu seul qui doit parler et qui parle. Et celui qui a entendu cette parole de Dieu, qu'il a reçue en lui, recevra révélé. Il lui sera aussi révélé ce que Jean, par exemple, a vu. Et dites-le franchement, quand vous lisez l'exposé des sceaux dans le livre qui est aussi à notre disposition, comme on peut bien suivre tout cela, frère Branham présente le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, dans une telle harmonie divine, et nous montre aussi avec l'histoire comment tout cela s'est ordonné. Puis le cinquième, qui concerne les Juifs qui ont été déjà assassinés et ceux qui le seront encore. Car il est clairement écrit, « Attendez que vos frères et vos compagnons de service soient eux aussi au complet comme vous qui avez souffert ou qui souffrez la mort comme et qui souffriront la mort comme vous. » C'est clair, il n'y a pas de doute ici. Celui qui veut savoir ce qui concerne le sixième sceau constate qu'il se réfère déjà au jour du Seigneur, au jugement de colère de Dieu qui s'abat sur cette terre pendant le sixième sceau. L'Église ne sera plus sur terre à ce moment-là. Vous pouvez le lire vous-même. Apocalypse 6, verset 12. « Puis je vis qu'à l'ouverture du sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. » Apocalypse 6, verset 12. Donc il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier jette ses fruits non mûrs quand un vent de tempête le secoue. Comme il sera ridicule qu'un homme se place ici ou n'importe ici ou n'importe où sur cette chair, sur une chair et dise quelque chose de complètement différent sur le sixième sceau que ce que nous lisons ici. C'est vrai? Il en va de même aussi pour le septième sceau. Les gens peuvent se tenir debout dans toutes les chairs et devant tous les pupitres et dire ce qu'ils veulent. Et les gens sont enthousiasmés, n'est-ce pas? Ils acclament en grand nombre. Oui, à propos de quoi? Parce que quelqu'un se laisse fêter? Fêter? Non. Les gens qui se laissent fêter aujourd'hui, c'est en fait le mot américain qui convient Higher and Fire. Et ils sont ensuite virés. Des gens qui, parmi le peuple de Dieu, abusent de la candeur et de la crédulité de ceux qui veulent toujours plus de Dieu pour apporter un faux feu sur l'autel, pour présenter de fausses interprétations, parce qu'ils apportent de fausses interprétations au peuple, pour le maintenir ainsi dans l'ambiance. À ce moment-là, ils ne seront plus célébrés, fêtés, mais virés. Et Dieu prendra soin de son peuple. Croyez-moi, de même que les détails de chaque sceau sont décrits ici, il est certain que ce qui est écrit dans le sceau en question s'accomplira à chaque fois. Il en va de même pour les sept âges de l'Église, pour les sept coupes de la colère, pour les sept jugements au son de la trompette. Il en va de même pour chaque domaine. Il n'y a pas de place pour l'interprétation dans la parole prophétique. Ici, des limites nous ont été fixées. Si je veux savoir ce que le Seigneur veut dire à la troisième, au troisième âge de l'Église, je dois lire le troisième écrit. Si je veux savoir ce qu'il dit dans le sixième sceau et ce qui se passe, ce qui s'y passe, je dois le lire. Je lis encore un peu du sixième sceau. Et les rois de la terre, peut-être encore le verset 14, Apocalypse 6, verset 14. Les cieux disparurent comme un rouleau qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, les dignitaires et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils crièrent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère et jugement est arrivé, qui pourra y résister? » Frère Rousse a lu cette parole glorieuse. Il ne nous a pas seulement sauvés, délivrés du péché et donné le pardon. Il nous a destinés à être enlevés avant que les jugements de colère de Dieu ne s'abattent sur cette terre. Les riches et les puissants, tous les dignitaires, n'iront alors que dans une seule direction et non plus dans les palais et les maisons royales. Ils prendront la fuite en criant, « Vous, montagnes, tombez sur nous. Vous, collines, couvrez-nous. Car une catastrophe en remplace une autre. Personne ne sait ce qui va suivre. Mais tous savent que ce qui se passe est terrible et qu'il n'y a plus de fuite possible. D'où ce cri, « Vous, montagnes, tombez sur nous. Vous, collines, couvrez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône, de la colère de l'agneau. » En ce temps-là, en effet, l'agneau sera roi. Il jugera, il prononcera le jugement. Nous l'avons d'ailleurs en partie expliqué dans la dernière brochure. Qu'est-ce que je veux dire ici aujourd'hui? Et ce, certainement, par ordre du Seigneur et de sa part, à savoir que nous devons lire la parole de Dieu avec respect et recueillement, avec un saint respect, et dire, Seigneur, nous sommes en ta présence, nous sommes dans le lieu très saint, nous levons les yeux vers toi, tu parles et tu agis. Nous voulons entendre ce que tu dis, écouter ce que tu dis pour savoir ce que tu fais. Permettez-moi de le souligner et d'insister encore une fois. Toutes les interprétations concernant n'importe quel sceau seront aussi fausses que toute interprétation concernant le septième sceau. Dans le cinquième, il se passe ce qui est écrit dans le cinquième. Dans le sixième sceau, se produit ce qui est écrit dans le sixième sceau. Dans le septième, ce qui est écrit dans le septième. dans le septième, ce qui est écrit dans le septième se produit. Une autre possibilité n'existe pas. Elle est totalement et absolument exclue. Vous avez bien entendu que lorsque des gens viennent avec de nouvelles révélations, ils annoncent aussitôt un jugement. Car celui qui n'accepte pas leur révélation n'est déjà plus sur la liste des candidats au ciel. Ils s'arrogent alors immédiatement le droit de dire, « Bon, c'est la révélation maintenant. Celui qui ne l'accepte pas n'en fait pas partie. Il n'est pas de la partie, il est dehors. » Si Dieu voulait se conformer à tous ces gens, aujourd'hui, l'un met l'autre dehors. Demain, l'autre met l'un dehors et l'autre dedans, comme ils le veulent tous. Comme ils le veulent. Qui a le droit d'agir ainsi avec la troupe rachetée par le sang? Notre Seigneur et Rédempteur a payé le prix sur le prix précieux sur la croix à Golgotha. Non pas pour que nous devenions le jouet de telles machinations, mais pour que nous soyons affermis et fondés dans la parole de Dieu et pénétrés de la vérité, afin que tout le reste rebondisse sur nous. Croyez-moi, il est écrit et il en sera ainsi. Lorsque le septième sceau fut ouvert, Jean vit sept anges auxquels furent données sept trompettes. Quelqu'un me demande-t-il de voir autre chose que ce que Jean a vu à l'ouverture du septième sceau? Par exemple? Quoi? Absolument pas. Et celui qui attend ou pense voir autre chose que ce que Jean a vu, il voit mal. Et c'est une parole facile que nous utilisons encore là. Un tel homme, une telle personne a une fausse inspiration. Un tel homme n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu dans lequel Jean se trouvait et fut enlevé au jour du Seigneur et vit en esprit toutes ces choses. De telles personnes qui voient et annoncent autre chose sont victimes d'autres esprits. Des esprits religieux, mais pas l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu repose sur moi, comme il a reposé sur Jean, je vois alors dans le septième sceau ce qu'il a vu dans le septième sceau. Comme je vois dans le sixième sceau ce qu'il a vu dans le sixième, et dans le cinquième ce qu'il a vu dans le cinquième. Dans le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier, je vois ce qu'il a vu. Frères et sœurs bien-aimés, le temps devient de plus en plus sérieux. Les séductions de plus en plus malicieuses, de plus en plus rusées. On prend de plus en plus la parole de Dieu. Ils prennent toujours de plus en plus la parole de Dieu. Ils prennent pour cela des citations. Et nous avons déjà considéré cela plusieurs fois ici aussi, lorsque Satan a commencé à piéger et à voir les hommes dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire les premiers hommes. Comment s'y est-il pris? Est-il passé à côté de Dieu et de la parole de Dieu? Non, il s'est appuyé, il s'est référé même à Dieu et à sa parole et a ainsi piégé les premiers hommes avec la parole de Dieu. Satan a tenté la même chose, lorsqu'il a fait subir toutes sortes d'épreuves à notre Seigneur ici-bas. Il a dit, il est écrit, mais notre Seigneur, qui était la parole faite chair, a dit, Satan, il est encore écrit. C'est cela qui compte. Ne pas prendre un seul verset et dire, il est écrit. Il faut pouvoir dire, il est encore une fois écrit. Et alors, on peut mettre l'ennemi en fuite. Et aussi tous ces envoyés. Vous savez que nous ne voulons pas dire ces choses, mais personne ne peut s'imaginer la douleur qui y est liée. Mais soyez honnêtes. Que voulons-nous? Soyons sincères. Voulons-nous faire de la politique religieuse? Passer simplement le temps? Ou avons-nous pour devoir, pour tâche de proclamer en ce lieu rien d'autre que la pure vérité? Et que celui qui est destiné à entendre la pure vérité vienne et l'entende. Et si elle ne leur suffit pas, Dieu leur enverra lui-même une puissance d'égarement, une puissance d'erreur. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour la vérité et aimé la vérité. Cela est écrit dans 2 Corinthiens 2. À ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour la vérité, Dieu envoie des puissances d'erreur. Des puissances d'erreur pour faire des erreurs, pour enseigner des erreurs, pour qu'ils croient à des mensonges. Ils peuvent croire à la vérité, mais ils devront croire aux mensonges. Alors, une nécessité s'impose à eux et ils ne peuvent plus faire autrement. Avons-nous tous compris la leçon que nous étudions ici aujourd'hui, vraiment tous, qu'il n'est pas permis, ou que ce soit dans les épîtres, dans les jugements, au son des trompettes, dans les coupes de la colère, ou quoi que ce soit. Il n'est pas permis d'introduire ses propres pensées, ses propres petites pensées personnelles. Ce que Dieu voulait dire et révéler, il a dit et il a révélé. Aucun homme n'a le droit d'aller au-delà de cette révélation que Dieu a donnée. Et lorsque vous lirez cela dans la lettre circulaire, vous verrez qu'en raison de l'autorité de la parole de Dieu, je déclare nul et non avenu toute interprétation arbitraire. Je déclare nul et non advenu toute interprétation arbitraire. Quelle a été donnée par le septième sceau ou par sept tonnerres ou ainsi de suite. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux faire qu'une chose. Soit laisser Dieu et la parole de Dieu s'appliquer, soit je dois laisser s'appliquer ce que les hommes disent. Et je crois que certains peuvent me trouver un peu fou, mais pas au point d'engager mon temps et ma vie entière et d'être finalement puni parce que je n'ai pas dit la pure vérité au peuple de Dieu. Croyez-moi, il n'y a pas que l'engagement total et toutes les forces que l'on met dans le royaume de Dieu et dans l'œuvre du Seigneur, dans la cause du Seigneur. Ce qui compte, c'est une chose, c'est qu'il soit vrai, c'est que cela soit vrai, que l'on ne, qu'on n'a pas couru parce que d'autres courent et que l'on ne l'a pas prêché parce que d'autres l'ont prêché, mais que l'on marche parce que l'on a été envoyé, qu'on aille parce qu'on a été envoyé et que l'on parle parce que Dieu nous a parlé. C'est ce qui compte. Je crois que nous pouvons le dire de tout notre cœur. La leçon que nous devons prendre à cœur aujourd'hui, en toute simplicité, simplement, mais de manière poignante, en tant qu'Église entière ici et en tout lieu, dans toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, c'est que Dieu a déjà dit dans sa parole tout ce que nous avons à savoir et que les choses qui ont été révélées sont annoncées. Et si après l'ouverture des sceaux, dans la Bible, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix conformément à Apocalypse 10, puis sont à nouveau scellés et ne peuvent être écrits, alors nous devons respecter cela. Ils n'ont pas été écrits. Nous devons respecter cela dans le saint respect du Dieu saint et dire, tu l'as voulu ainsi, tu l'as fait ainsi, que ton nom soit sanctifié. C'est ainsi qu'il faut faire. Bien sûr, il y a des gens pour qui cela ne suffit pas, bien sûr, mais vous pouvez lire les versets d'Apocalypse 8 jusqu'au 16e verset pour connaître l'intérêt. Introduction, et puis bien sûr aussi les jugements des trompettes qui, au départ, comme pour les sceaux, ne font pas se succéder les sept, mais seulement six à chaque fois. Comme les six premiers sceaux se suivent, et ensuite il y a tout un chapitre, à savoir Apocalypse 7, comme vision intermédiaire, et ce n'est qu'ensuite au chapitre 8 que vient le huitième, que vient le septième sceau. C'est seulement au chapitre 8 que vient le septième sceau. C'est ainsi que vous pouvez lire le septième sceau. Je vous remercie. C'est ainsi que vous pouvez lire ici dans l'Apocalypse, Apocalypse 8 du verset 7, que la première trompette, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à la fin du chapitre 9. Je me répète volontiers. Celui qui veut savoir ce qui se passe pendant la sixième trompette, qu'il lise Apocalypse chapitre 9 du verset 13 au verset 21. Celui qui veut savoir ce qui se passe pendant la cinquième trompette, qu'il lise Apocalypse 9, du verset 1 au verset 12. Celui qui veut savoir tout le reste, qu'il lise les versets qui en font partie. Celui qui veut connaître toutes les autres choses, qu'il lise également le texte qui s'y rapporte. Celui qui veut savoir ce qui s'accomplit dans le septième sceau, qu'il lise Apocalypse chapitre 8, du verset 1. Lis qu'en ce temps-là, le trône de la grâce devient le trône du jugement. Lorsque les dernières prières s'élèvent vers Dieu et que l'achèvement est arrivé, alors les encensoirs dans lesquels les prières des saints étaient jusqu'alors rassemblées et présentées à Dieu sur l'autel d'or, soudain, plus aucune prière ne s'élève. Les dernières ont été exaucées, elles sont offertes sur le trône, là, en guise de parfum, puis elles sont vides. Puis ils sont vides, les encensoirs, puis ils sont remplis des charbons qui sont sur cet autel. Je vous le lis, c'est écrit ici, Apocalypse, chapitre 8, verset 5. Après cela, l'ange prit l'encensoir, le rempli de charbon ardent pris sur l'autel et le lança sur la terre. Et il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Après cela, c'est de tout cela qu'il s'agit ici dans le septième sceau et de rien d'autre. Tous peuvent s'épargner toutes leurs propres idées, les garder pour eux. Elles n'ont pas de place ni dans le royaume de Dieu, ni dans la parole de Dieu, ni dans l'église du Seigneur. Donc au moment où les dernières prières sont arrivées devant le trône de Dieu, et vous savez bien que certains pensent que le temps de la grâce se termine complètement lorsque l'église est enlevée. Non, ce n'est pas vrai. C'est alors que la grâce et le salut passent des nations à Israël. C'est alors seulement que Dieu répandra l'esprit de grâce et de prière sur Israël. Le temps de la grâce ne se termine pas avec l'enlèvement. Il se termine avec l'enlèvement pour les nations. C'est alors que la grâce et le salut se répandent sur Israël et que les deux témoins apparaissent. Apocalypse 11, 3, et à ce moment-là, les 144 000 seront appelés à sortir et seront scellés, Apocalypse 7, 4, puis montrés sur la montagne de Sion, Apocalypse 14, 1. Ne m'en voulez pas pour cela, mais cela m'a vraiment coupé le souffle quand maintenant, quelque part en Suisse, lors d'une étrange réunion de frères, j'ai mis la main sur une brochure imprimé par mon ami de Tucson. Je le mentionne aussi ici dans la lettre séculaire. Juste parce que frère Branham a dit quatre fois, le Seigneur rassemblera les 144 000 sur la montagne du Sinaï, au lieu de montagne de Sion. Il a si bien dit, je vois le Seigneur sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sinaï, pardon, avec 144 000. Maintenant, ils ont utilisé des mois pour trouver le mont Sinaï dans l'Israël d'aujourd'hui. Et ils n'ont trouvé cela selon leurs propres dires et ils ont publié une brochure. Bien sûr, les citations de Frère Branham, avec les citations de Frère Branham. Une chose après l'autre. En de telles occasions, je dois faire preuve de beaucoup, beaucoup de retenue pour ne pas devenir un peu différent de l'image que j'aimerais donner de moi-même. Mais cela va vraiment trop loin. Si un frère Branham dit 700 au lieu de 7000, c'est quand même un lapsus. Quand il dit mon Sinaï au lieu de dire mon Sion, c'est un lapsus. Il n'a pas voulu dire cela. Nous savons très bien ce qu'il a voulu dire. Et nous savons très bien ce que les Saintes Écritures disent, n'est-ce pas? Si frère Branham voyait cela aujourd'hui, je vous le dis, sa nature d'agneau se retournerait aussi un peu. Il prendrait le fouet comme notre Seigneur et dirait, vous voyez, vous avez fait de la maison de Dieu une maison de désordre, une caverne de voleurs. Et il frappera dedans. Non, Dieu ne nous a pas donné un esprit d'idolâtrie. Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, pour connaître ce que Dieu nous a donné par grâce. 1 Corinthiens 2:12. Mais voici le point. Et là, vous partagez peut-être avec moi la même question. Elle est la suivante. Est-ce que tout a vraiment dérapé? Les gens ont-ils vraiment perdu le sens de l'orientation? C'est avec une profonde douleur dans le cœur que je le dis. À moins que Dieu ne donne un véritable ordre, un mandat, un appel à quelqu'un, sinon nous n'avons même pas le droit d'utiliser les Écritures comme cela est fait, comme bon nous semble. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays, bien sûr, avec des citations de frère Branham. Je peux pourtant encore distinguer tant de choses que je vois et reconnais ici. Il s'est trompé, c'était un lapsus. Combien de fois me suis-je moi-même surpris ces dernières années à ne même pas citer correctement des passages bibliques? Oui, est-ce que je veux corriger Dieu ou est-ce que je dois me corriger moi-même si je me suis trompé? Vous voyez de quoi il s'agit? À savoir de voir ce que Jean, par exemple, a vu ici, d'entendre et de lire ce qui a été mis par écrit selon la parole de l'Écriture. Bénis ceux qui entendent et ceux qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps de l'accomplissement est proche. Apocalypse 1, 3. C'est tout ce que Dieu veut. Chaque chose à sa place. Chaque chose en son temps. Ce qui est écrit en rapport avec l'ouverture du septième sceau s'accomplira littéralement à ce moment-là. Pas avant. Le trône de la grâce deviendra alors le trône du jugement. Les charbons ardents de l'autel seront lancés sur la terre à ce moment-là. Puis il y aura des éclairs, des coups de tonnerre, des voix et un tremblement de terre, comme il est écrit au verset 5, Apocalypse 8. C'est ainsi que cela se passera. Ici, on pourrait dire, ainsi parle le Seigneur. Ici, on pourrait dire, ainsi parle Dieu dans sa parole. Ici, on pourrait donner toutes sortes d'expressions au nom du Seigneur, parce que la parole de Dieu le dit ainsi. Depuis quand l'homme est-il une autorité? Depuis quand? L'autorité, c'est Dieu et la parole de Dieu. Et personne d'autre, tout homme sur la terre entière, doit se soumettre à cette autorité divine de la parole. Celui qui se place au-dessus de la parole, en l'interprétant, vous savez quel esprit il a. Il n'y en a qu'un qui s'élève au-dessus de ce qui concerne Dieu et le service divin, etc. 2 Thessaloniciens 2:4. Tout homme, qu'il veuille l'admettre ou non, qui s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole, a un esprit antichrist. Tout comme là l'antichrist. Hein, il s'élève naturellement en blanc comme aucun d'autre. Les autres peuvent tous s'habiller en rouge et en noir comme ils le souhaitent, n'est-ce pas? Le blanc n'appartient qu'à lui. L'avez-vous remarqué? C'est très beau, hein, n'est-ce pas? Et puis, 2 Corinthiens 11 dit aussi que Satan s'habille de blanc, sous la forme d'un ange de lumière. Mais il n'est pas le seul. Ses serviteurs font de même. Ses serviteurs font de même. Comme cela me fait mal de savoir, de devoir dire toutes ces choses, je le fais parce que j'ai une responsabilité devant le Dieu vivant. Acceptez-le. Acceptez-le comme une, comme un avertissement, comme un enseignement. Et pas seulement cela. Prenez-le au sérieux. Je vais me répéter, puis je demanderai au frère Rousse de dire peut-être brièvement quelque chose. De même, que Dieu a fait dire dans les écrits, d'envoi pour chaque âge, ce qui s'y applique et ce qui s'y produirait. De même, il a fait dire, montrer et révéler dans chaque sceau ce qui appartient à ce sceau. Ce qui appartient à ce sceau. Je dois simplement dire amen à cela. Je voudrais remercier Dieu de ne pas nous avoir abandonnés à l'arbitraire des hommes. Non pas que tous pensent pouvoir faire de nous ce qu'ils veulent. Non, nous avons pris notre position dans la parole de Dieu. Nous pouvons dire, je suis ici, je ne peux pas faire autrement, que Dieu me vienne en aide et que celui qui se tient sur la parole de Dieu reste debout. Dieu l'aidera, reste debout sur la parole de Dieu et Dieu t'aidera. D'autres l'ont expérimenté et cela s'accomplira aussi pour nous. Le verset 6 dit encore, Apocalypse 8, verset 6, « Après cela, les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à souffler dans les trompettes. » Alors nous lisons ensuite ce qui se passera dans la première trompette, dans la deuxième et dans tous les autres, dans toutes les autres, toutes les autres. Comme c'est écrit ici, tout s'accomplira littéralement, littéralement. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a pas besoin d'un homme pour l'interpréter. Il est son propre interprète. Loué soit son saint nom. J'espère seulement que nous l'avons compris. Nous ne sommes pas dans le parvis où tout est en désordre, dans les parvis. Nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus seulement dans le sanctuaire où l'on donne peut-être des enseignements et d'autres choses de ce genre. Nous sommes dans le lieu très saint. Là où Dieu lui-même nous parle par sa parole et par son esprit. Soyez sincères, son esprit est venu sur nous et nous voyons exactement ce que Jean a vu et nous entendons ce qui lui a été communiqué et nous attendons dans chaque contexte ce qu'il a pu écrire par la grâce de Dieu. Nous sommes ici pour respecter Dieu, pour le remercier, de la fidèle provision qu'il a prise. N'êtes-vous pas tous aussi submergés, touchés par le fait que Dieu soit si fidèle et qu'il ait pris soin de nous avec tant de miséricorde et qu'il nous ait acceptés. Amen.